Les cours du Collège de France, Yvon Madé, chaire informatique et sciences numériques.
Très bien, et bien bonjour à toutes et à tous et merci à nouveau et une dernière fois d'être là pour ces cours et le séminaire qui va suivre. Donc aujourd'hui on va parler un peu de méthode de PIN, mais je vais essayer de remettre ça dans un cadre, dans le cadre des méthodes de réduction de complexité. Et donc je vais m'inspirer principalement d'un article que j'ai trouvé intéressant de l'équipe de Estaven, de Chen Wang, Estaven et Zhang, donc du temps où Yann Estaven était à Lausanne. Alors on va reprendre le cadre un peu général et donc on va s'intéresser à un problème qui s'écrit de façon instationnaire, trouver phi tel que dφ sur dt de x et de t plus une certaine fonctionnelle qui dépend de φ de x et de t et d'un paramètre mu est égal à 0 pour x et t appartenant à oméga 3 0 t, auquel on rajoute des conditions aux limites qui sont que b de φ de x et de t et de mu est égal à 0 pour x t appartenant à la frontière 3 0 t et d'une condition initiale φ de x et de 0 égale phi 0 de x pour x appartenant à oméga. Donc un cadre tout à fait général dans lequel rentrent plein de problèmes et pour lequel on a une méthode de discrétisation qui est une méthode de discrétisation très précise mais très coûteuse que je laisse méthode de discrétisation de référence, donc, que je laisse sous la forme instationnaire pour le moment, dφ h sur dt de x et de t plus nh de φ h de x, de t et de mu est égal à 0 plus 1 bh plus, d'une certaine façon, que φ autant 0 est égal à une approximation de φ 0 de x. Et donc ça, c'est les conditions aux limites. Et donc, bien évidemment, ce problème-là est discrétisé en temps de façon explicite ou implicite. Par exemple, si on a un schéma d'Euler implicite, on va écrire que phi h de x à l'instant tn plus 1 moins phi h de x à l'instant tn sur delta t plus nh de phi h de x et de tn plus 1 et de mu est égal à 0 si on prend donc un schéma de l'air implicite. Alors, dans ce cadre-là, une fois qu'on a une telle méthode d'approximation et qu'on veut utiliser des méthodes de réduction de complexité, l'idée c'est de considérer l'ensemble de ces solutions, donc soit les phi de x de t et de mu, soit les phi h de x de t et de mu, parce que c'est les seuls auxquels on ait vraiment accès, et on suppose que h est suffisamment fin pour qu'on ait une très très bonne approximation de la solution. De même, le delta t ici est suffisamment petit pour que l'approximation soit acceptable au sens où on fait les approximations. Très bien, donc on a cet ensemble de phi h de x de t auquel je rajoute donc le paramètre mu Et ça, c'est l'ensemble des solutions. On avait vu que c'était une variété. Et on va réduire la complexité de cette variété-là par une méthode ou par une autre en considérant un espace vectoriel de fonctions qui vont s'appeler zeta i, i allant de 1 jusqu'à grand N et qu'on va appeler xn, qui sont des vecteurs obtenus par une méthode POD, SVD, greedy, obtenue en choisissant des paramètres mu de façon récursive et associée à un estimateur a posteriori, et ensuite, ayant toutes les solutions à tous les instants T, on fait, dans ce cas-là, une SVD, greedy, SVD pour la partie temporelle, pour rechercher les parties en temps qui sont les plus représentatives, et c'est comme ça qu'on bâtit la base qui est là. Alors, je vous rappelle qu'il y a deux façons de voir les choses. Soit on dit que phi h s'écrit comme un vecteur V alpha, où V représente donc l'ensemble des vecteurs colonnes zeta 1, zeta 2, zeta n. Donc V est une matrice avec un nombre grand n de colonnes, mais une taille curly n qui est la dimension de l'espace discret de référence sous-jacent. Donc soit on considère ça, soit on ramène le phi h à un phi h phi tilde moyen, et on considère alors la partie base réduite sur les phi h moins phi tilde, et donc il faut modifier un tout petit peu cette définition-là. On a donc l'espace S tilde qui est l'ensemble des phi h de x, de t et de mu moins ce phi tilde de référence. Alors, les méthodes de base réduite consistent donc à chercher une telle approximation avec des coefficients alpha qui vont dépendre du temps et de mu, qui vont vérifier cette équation-là dans un certain sens. Et le certain sens peut être un peu important, et donc il y a les méthodes qu'on appelle les méthodes intrusives, qu'on avait bien vu, et qui consiste à dire que cette équation-là va être vérifiée non pas en tous les points, parce que ça ferait beaucoup trop d'équations, ça serait un système qui serait surcontraint. On va choisir un certain sens dans lequel ces équations vont être vérifiées, et donc il y a une méthode qui est de type Galerkin, où les fonctions test vont être les fonctions qui sont ici, et donc on va définir les alpha solutions du problème d'approximation comme étant solution de D, alors phi n sur dt plus n de phi n et de mu est égal à zéro, c'est-à-dire qu'on fait la projection de l'équation qu'on veut vérifier sur chacun en produit scalaire avec chacun des modes qui sont ici. Donc ça, c'est une méthode intrusive, puisque dans ce cadre-là, il va falloir construire les matrices et les parties non linéaires de la partie V transposée N. Donc ça, c'est pour ce qui est des méthodes de Galerkin. Alors, ce n'est pas forcément le plus intelligent de faire ces méthodes de Galerkin, parce qu'il peut y avoir des instabilités. Donc, peut conduire et donc, il vaut mieux a priori penser à des méthodes de type Petrov-Galerkin. Qui sont bien expliqué par exemple par les méthodes du type LSPG, où au lieu de vouloir résoudre ces équations qui sont là, on essaie plutôt de minimiser le résidu qui est le dφ n sur dt plus n de φ n et de mu, et qui revient donc à rendre cette partie-là, donc les conditions d'optimalité de ce problème-là, reviennent à rendre dφ n sur dt plus n phi n et de t orthogonal à un w de t, où w de t, c'est quelque chose qui s'écrit comme le résidu des phi n sur des phi appliqué donc à V. Et qui est donc un espace de fonction qui va dépendre au cours des itérations de la solution elle-même, mais qui permet d'assurer la stabilité, parce que dans ce cas-là, on minimise ce résidu-là, et donc on arrive à maîtriser toutes les composantes qui sont présentes dans ce résidu-là. Alors, tout ça fait que ces méthodes, qui sont donc des méthodes intrusives, peuvent être mises en œuvre, mais demandent beaucoup de travail offline. C'est pour ça qu'on avait vu les méthodes non intrusives. Parmi lesquelles, la semaine dernière, on avait parlé des méthodes, les méthodes à deux grilles, sur lesquelles je vais rappeler un tout petit point, parce que je m'étais aperçu en fin de cours la semaine dernière que j'avais oublié un petit point qui était important. Alors, la méthode de grille, donc, si vous vous souvenez, on a un code dans lequel on ne peut pas rentrer, mais qui est convivial, au sens où il permet d'avoir deux types de discrétisation, une discrétisation fine qui nous donne une bonne approximation de la solution donc dans ce cadre-là, mais qui est très coûteuse, et une approximation grossière qui nous donne une idée de la solution, mais pas du tout à la précision qui nous intéresse, mais par contre dans un temps qui est compatible avec le online. Donc, le maillage fin est utilisé offline, le maillage grossier est utilisé online. Alors, ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est que à partir de UH, éventuellement de T et de mu qui pouvaient être calculés, mais on va mettre simplement mu qui est ici, ce qu'on faisait, c'est le produit scalaire zeta i, et on construisait cette somme de i allant de 1 à grand n qui s'appelait u grand h petit h de u petit h grand h de mu, obtenu parce que les zeta i sont une base orthonormée dans L2 de oméga. On remplaçait le u petit h qu'on aurait voulu mettre ici et qu'on n'a pas envie de calculer online, par un U grand H. Et on avait vu que l'approximation était du type donc, se majorer par plusieurs constantes. D'une part, la contribution epsilon de N due à la réduction de complexité, ici, un petit h qui est lié au fait que les zeta i qui sont ici ont été évalués offline avec une précision petit h, et enfin un grand h au carré qui est là, mais avec une constante ici qu'on avait vue qui dépendait de n et de lambda n, de façon faible, mais de façon néanmoins qui pouvait être perturbée, et qui conduisait, lorsque n devient important, à proposer en addition une méthode de rectification basée sur le fait que offline on avait calculé des solutions particulières pour certains paramètres mu1, mu2, mu grand n, et que donc utiliser cette information là pour améliorer les coefficients qui sont ici, puisqu'on les connaît pour ces valeurs de paramètres là, permettait d'avoir une approche très simple qui permettait d'être appliquée à toutes les solutions paramétrées avec des mu, et qui permettait, au cas où mu était égal ou proche en tout cas d'un mui, d'avoir une meilleure approximation. Et on s'apercevait que, de façon globale, c'était quelque chose de tout à fait pertinent qui améliorait la performance et suppléait un petit peu à ce caractère de la constante qui est ici et qui dépend de grand N. Alors on avait vu que cette constante, on l'avait évaluée, et on avait vu qu'elle dépendait comme racine de n, racine de lambda n. Alors, ce lambda n-là, c'était le maximum de la norme de zeta i H1 divisé par zeta i L2 qui vaut 1, puisqu'on a une base orthonormée. Celui-là n'était généralement pas trop méchant. Mais le caractère en racine de n ici, il est quand même un petit peu embêtant dès qu'on se met à utiliser quelques modes. Alors en fait, pour enlever cette partie-là, et c'est ça que je voulais vous expliquer aujourd'hui, que j'aurais dû faire la semaine dernière, eh bien, c'est de dire qu'on va modifier un petit peu cette base qui est là et qui génère l'espace xn qui est là. Donc xn qui est l'espace vectoriel engendré par les états i, on va résoudre dans cet espace xn le problème laplacien de qui est égal à lambda qui. Avec un moins pour avoir des lambda qui sont positifs. Et donc, si je mets un lambda ici, il faudrait que je mette un lambda carré, voilà. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que on va, dans Xn, trouver le système de fonctions qui vont être orthogonales à la fois au sens L2 et au sens H1. Donc on va transformer cet espace-là en un espace de fonctions qui i, qui sont telles que qui i, qui j est égal à delta ij, mais qui i, qui j au sens du produit scalaire H1 va être égal à 0 si i est différent de j, c'est-à-dire qu'on prend les fonctions propres discrètes de ce problème-là dans xn. Et dans ce cadre-là, on peut utiliser les qi comme une base orthonormée de L2, puisqu'elle est orthonormée dans L2, mais elle est aussi orthogonale au sens H1. Et de ce fait, l'estimation d'erreur qui est ici, et donc cette partie-là, qui, je vous rappelle, venait du UHN moins U petit h grand HN au carré, en norme H1, qui est la somme de UH moins U grand H zeta I zeta I. En norme H1, est aussi la somme de UH moins U grand H qui I en norme H1 au carré. Et donc, en ayant transformé la base zeta i en une base qui i, qui est cette fois-ci orthonormée au sens H1, on voit que ceci se majore par la somme de UH moins U grand H qui I au carré multiplié par qui I H1 au carré. Et les valeurs propres du système qui est ici sont justement majorées par ce maximum qui est là. Lambda n, c'est la plus grande valeur propre de ce système qui est là. Et donc ceci est majoré par lambda n au carré. Du coup, peut-être pas. Voilà. Donc ce lambda n qui est là, c'était ça. Voilà. Et donc là, on ne va pas avoir lambda n au carré, on va avoir lambda n. Lambda n, la somme de UH moins U grand H qui I fois qui I en normal 2 au carré, et ceci se majore par UH moins U grand H en normal 2, puisque la base des qui I est orthogonale à la fois en H1 et en L2. Et donc ceci, c'est uniquement la norme L2 avec la majoration lambda n qui est ici, qui est donc toute simple. Donc quand on est pris dans cette base-là, on voit que le racine de n s'en va et qu'il ne reste que cette partie qui est ici. Donc pour la méthode de grille de base, de travailler dans la bonne base permet d'avoir une bonne approximation, un petit peu meilleure donc que celle donnée si on ne fait pas ce travail d'orthogonalité au sens L2 et au sens H1. La rectification, de toute façon, marche bien, quelle que soit la base orthogonale choisie. Bien, alors, donc les méthodes non intrusives se différencient donc des méthodes intrusives par le fait qu'on n'a pas besoin... J'ai plus d'effaceur. OK, donc dans les méthodes intrusives, cette méthode de grille est donc une méthode, même si la rectification commence à faire penser à des méthodes de machine learning, c'est une matrice simplement qui permet de faire la rectification. Donc on n'est pas dans le cadre de la machine learning, mais néanmoins, on peut utiliser du machine learning pour, à partir des coefficients mu et éventuellement de t, définir l'ensemble des alphas de mu et de t qui sont un vecteur dans Rn qui sont les composantes de phi h dans la représentation réduite qui nous intéresse. D'accord ? Donc on avait vu ces approches-là, soit des approches avec un auto-encodeur, soit des approches directes. Et dans les approches directes, on peut avoir des méthodes qui sont basées sur des réseaux de neurones. Et donc, réseaux de neurones, qui vont nous faire petit à petit glisser vers les méthodes PIN, Physics Informed Neural Network. Alors, donc ici, on a un paramètre qui appartient à RP plus 1, le temps étant le plus 1 et le paramètre mu étant dans un ensemble D inclus dans RP, vous vous souvenez? Et ici, on a les paramètres dans la base réduite, et donc le réseau de neurones va être, par exemple ici, quelque chose qui a au paramètre possible mu et t dans RP plus 1, va nous associer les alphas de mu et de t qui sont donc dans Rn. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones? Eh bien, c'est quelque chose qui va faire aller deux paramètres qui sont dans Rp plus 1. Donc ça, c'est la première composante, ça, c'est la deuxième composante, ça, c'est la p plus unième composante. Et ici, on a les n composantes qui nous intéressent et qui vont nous permettre de passer de l'un à l'autre avec un opérateur dont les règles sont relativement simples et qui fait introduire des notions de couche intermédiaire dont la dimension est l'un des paramètres de l'architecture du réseau de neurones et qui envoie à chaque valeur de l'input, qui est ici, donc en entrée, va générer des valeurs intermédiaires dans les couches intermédiaires qui vont être calculées de la façon suivante. Alors, on va appeler x l'entrée, y la sortie, donc x est un élément de Rp plus 1, y est un élément de Rn, et les éléments ici sont les éléments sur les couches d'une certaine dimension et qui ont pour nom des vecteurs y1 pour la première couche, y2 pour la deuxième couche, yl pour la dernière couche ici, avec un y qui sera donc égal à un y grand L plus 1. Et donc comment on passe d'une couche à l'autre? Eh bien, on a connaissance à la couche L-1 du vecteur. Donc on commence par x égale y0 et on génère comme ça de façon récursive cette chose-là. On la multiplie par une matrice WL. On ajoute une composante BL. On fait agir là-dessus une fonction d'activation. Et on obtient à la fin, donc on a y0 égale x. Et y final est égal à y L plus 1, comme j'avais pu dire, et qui est égal à W L plus 1 Y L plus B L plus 1. Alors, W L et B L sont des matrices et des vecteurs de la bonne taille pour que ceci ait un sens, c'est-à-dire que on va aller ici de Rp plus 1 vers un Rm1, puis de Rm1 vers Rm2, puis de Rm2 vers Rm3, puis de Rml vers R grand N, puisque à la fin, la taille du vecteur de sortie est de taille grand N. Alors, ayant une base étiquetée connue de valeurs de x auxquelles sont associées des valeurs de y qui sont obtenues par un calcul offline sur la discrétisation fine et projetées ensuite dans la base réduite. À partir de ça, on a des coïncidences entre x qui donne y. Et on va exercer le réseau de neurones ici, c'est-à-dire déterminer les valeurs de Y et de BL pour que ça colle avec les données. Donc on va optimiser les WL et les BL pour que le problème discret réduit soit le mieux possible résolu. Alors, dans ce cadre-là de réseau de neurones à plusieurs couches, c'est l'une des architectures, et il y a plein d'autres d'architectures que je ne vais pas présenter, mais ça, c'est un type d'architecture. Et donc, on va déterminer une fonction coût qui s'appelle la loss function dans la littérature. D'accord ? Cette fonction coût qu'il faut minimiser pour qu'elle représente au mieux le problème qui nous intéresse. Et donc, la définition de la fonction coût va justement être le cadre de ce qui va suivre. Et pour minimiser cette fonction de coût, eh bien, on va prendre des algorithmes qui vont nous permettre de diminuer petit à petit la valeur du coût. Et donc, on va utiliser des méthodes de type gradient. Alors, le problème étant généralement un tout petit peu compliqué, la fonctionnelle de coût soit basée sur la résolution de l'équation, soit la détermination des alpha pour les valeurs qu'on a échantillonnées au préalable, est une fonction coût dont on connaît a priori pas forcément les propriétés, qui n'est la plupart du temps pas convexe, qui n'a pas un seul minimum qui serait un minimum global sans minimum locaux. Et donc les méthodes de gradient et pédalent un petit peu pour ce type de détermination de la minimisation d'une fonction coût. Donc les méthodes de gradient ne marchent pas. Et ce qu'il faut donc utiliser, c'est des méthodes de gradient stochastique. Donc je ne vais pas dire grand-chose, et sur lesquels il y a des logiciels tout faits qui peuvent être utilisés, PyTorch par exemple, dans lesquels on peut utiliser des méthodes dans lesquelles les choses qu'on est en train d'optimiser, sur lesquelles on a un accès pour minimiser la fonctionnelle de coût, c'est-à-dire trouver ces matrices et ces seconds membres qui sont là, pour essayer d'améliorer la fonctionnelle de coût. Donc on va appeler ça, cet ensemble, on va l'appeler θ. Et donc la fonctionnelle de coût qui s'appelle la loss function, on va calculer des dérivées de L par rapport à θ, et les méthodes de gradient stochastique consistent à dire, eh bien, on va à chaque itération évaluer certaines directions à chaque itération qu'on va appeler petit m. On va définir un indice θIM, calculer la dérivée dans cette direction-là et mettre à jour θM plus 1 est égal à θM plus quelque chose qui tient compte du gradient dans cette direction-là pour minimiser la fonctionnelle de coût. Alors, une méthode de gradient consisterait à calculer le gradient total pour optimiser la valeur de θ. Les méthodes de gradient stochastique consistent à choisir une itération par d'autre. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est aussi ce qu'on appelle des époques, où à chaque itération m, on va considérer un ensemble d'indices IM qui vont être calculés de façon aléatoire et indépendante, et dans lequel on va balayer l'ensemble des directions qui sont proposées dans ce cadre-là. Et vous voyez que Les directions sont très nombreuses puisque la dimension de WL, c'est, on avait dit, appartient à RNL croix NL moins 1 et le BL ici, il appartient à RNL. Donc ça fait vraiment beaucoup de directions dans lesquelles on doit travailler, d'où l'importance éventuellement de ne pas avoir un vecteur de sortie de taille trop importante. Alors, ces méthodes donc de réseau de neurones, de façon surprenante, marchent bien maintenant qu'il y a des ordinateurs suffisamment puissants et suffisamment rapides pour faire ces évaluations de gradient stochastique pour diminuer la valeur du coût. Et donc, on va s'intéresser maintenant à quelle est la fonction coût que l'on va mettre en œuvre dans ce cadre-là. Alors, dans les méthodes que j'ai commencé à citer ici, la fonctionnelle de coût, ça va simplement être définir les alpha à partir des mu pour que la fonction coût, c'est-à-dire pour chacune des valeurs de mu i qu'on connaît, on va être capable d'avoir les alpha les plus pertinents. Donc, on va avoir ce que dans le papier de Chen Wang, Estaven et Zhang, ils ont appelé la méthode projection driven neural network, donc PRNN, et qui est justement celle que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le LPRNN, c'est la somme du réseau de neurones qui s'appelle S, NN, comme Field Forward Neural Network, qui consiste à dire FNN de T et de mu moins alpha de T et de mu au carré. La somme sur tous les t et les mu qui sont dans l'espace d'entraînement avec un 1 sur nd ici pour normaliser, où nd c'est le cardinal de cet ensemble d'entraînement, où donc on va essayer d'identifier quels sont les bons paramètres qui sont là. D'accord ? Donc, une fois qu'on a entraîné un tel réseau, eh bien, on va donner une valeur de x, donc une valeur de mu et de t, bzoup, on va passer le réseau de neurones et on va obtenir les coefficients. Donc, du coup, il n'y a plus aucune équation à résoudre. Dans ce cadre-là, c'est bien une méthode non intrusive. Le point, c'est que il faut une base d'entraînement très grande et, comme je l'avais dit pour les méthodes de type réseau de neurones, on n'a pas d'estimateur a posteriori pour cela. Alors, dans ce cadre-là, on avait vu les méthodes de Manzoni qui avaient un réseau dans lequel il cherchait à minimiser la taille d'une couche intermédiaire pour essayer de réduire au maximum, essayer de trouver la plus petite dimension de ce réseau de neurones pour être capable de repartir et justement de bâtir cette application qui a mu associé les coefficients derrière ou éventuellement toute la solution. Donc ça, c'est la méthode Projection Driven Neural Network. Alors, on va arriver maintenant, dans ce cadre de base réduite, à la méthode PIN. Et donc la méthode PIN, qu'est-ce qu'elle demande? Eh bien, elle demande que dans la loss function, on ait l'équation qui arrive. Alors, les méthodes PIN prises dans cet article-là sont appliquées au système de base réduite, mais néanmoins, on va les voir de façon générale. Et là, il y a une base de travail que j'ai trouvée dans un article de Tim Derick et Siddhartha Mishra. Sur l'analyse de ces méthodes PIN, donc qui veut dire physique informed neural network, et qui a pour objectif, à partir donc de mu, de x et de t, d'associer U de mu de x et de t, du moins une approximation de cette solution qui est ici, ou de celle-ci, ou de du système base réduite, comme dans le papier de Chen Wang, Estaven et Zhang. Donc, ce U qui est ici, il appartient à un R qu'on va appeler Rm, avec M égale N dans le cadre général, si on veut apprendre la solution du problème de départ, ou M égale grand N dans le cadre du système de base réduite. Et va être vu, dans ce qui nous intéresse, comme le résultat de l'application d'un réseau de neurones comme je l'ai décrit tout à l'heure. Alors, dans le cadre... Ah oui, il y a un truc que je n'ai pas, que j'ai pas expliqué. Excusez-moi, je voulais le laisser pour la suite. Mais c'est donc comment on passe d'une couche à l'autre. On avait vu que donc Y L plus 1, c'était une certaine fonction d'activation associé à W L plus 1 Y L plus B L plus 1. Et je voulais avant tout vous indiquer quelles sont les fonctions d'activation qui ne sont pas un paramètre qui est optimisé dans la loss function et qui résulte en un choix qui va nous permettre de voir un certain nombre de propriétés de l'approximation proposée pour U de mu de x et de t. Alors, les choix possibles de fonctions d'activation sont une fonction de Heaviside, c'est-à-dire 0 si x est négatif et 1 si x est positif, une fonction logistique qui est 1 sur 1 plus exponentielle de moins x, et qui est donc une fonction régularisée de la fonction d'Heaviside, une fonction tangente hyperbolique qui est exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur exponentielle de x plus exponentielle de moins x, ou une fonction dont tout le monde a entendu parler, la relue, qui vaut le max de x et de 0, avec des variations plus ou moins régularisées. D'accord ? Et c'est cette partie non linéaire appliquée à la succession d'étapes linéaires affines qui sont là, qui permet à ces approches-là d'être capables d'approcher de façon universelle n'importe quelle fonction des paramètres qui sont là vers la fonction elle-même. Alors, ceci étant dit, donc ce qui caractérise les méthodes PIN, c'est de mettre dans la loss function l'équation qu'on va vouloir résoudre. D'accord ? Donc, dans la loss function, on va faire intervenir le problème, l'équation dérivée partielle que l'on veut résoudre. Ok, donc dans ce cadre-là, on a un résidu que l'on va appliquer à une fonction U et qui est la représentation de cette chose-là qui doit être égale à 0, donc soit un point de vue continu, soit un point de vue discret de taille curlienne, soit un point de vue discret de taille grand N. Et ce résidu-là, donc dans la loss function, donc la loss function de U qu'on veut minimiser, c'est le résidu qui doit donc être intégré en X et en T pour que la solution vérifie quand on la minimise. Ce qu'on veut atteindre, c'est, puisqu'on sait que c'est possible que le résidu soit égal à 0, ce qu'on veut attendre, c'est la minimisation de ce résidu qui est ici pour obtenir une vérification, dans un certain sens, de l'équation qui est ici. Alors, évidemment, ce calcul sur tous les x et sur tous les t n'est pas possible. Et donc, ici, on doit avoir un choix de points de discrétisation. Pour être capable d'évaluer cette chose-là. Et donc, il y a un ensemble de points XT qui sont choisis et qui ressemblent à une méthode de type colocation. Alors, je vous avais dit que le réseau était synthétisé par ces matrices qui sont là et ces vecteurs qui sont ici avec le choix d'un point qui s'appelle θ. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on minimise sur θ cette énergie qu'on appelle physique and form loss function appliquée à donc U qui dépend de θ et qui est représentée par le réseau de neurones. Donc, Uθ représenté par le réseau de neurones. Alors, dans ce réseau de neurones, on peut avoir l'équation qui est ici, mais on peut avoir aussi la vérification des conditions aux limites et des conditions initiales. D'accord ? Donc, dans ce qui est cette minimisation qui est là, on peut avoir, l'équation, deux, les conditions limites, trois, la condition initiale. Et donc, soit on se base uniquement là-dessus, ce qui veut dire que les conditions limites et les conditions initiales sont encodées directement dans le réseau de neurones pour les satisfaire, soit on a trois contributions dans cette énergie pile qui est là, avec des pondérations, lambda, oui, lambda 1, lambda 2, lambda 3, qui sont des pondérations où on a l'équation, donc l'énergie pile qui est là, va être lambda 1 fois l'équation au carré, plus lambda 2 fois la condition limite, plus lambda 3 fois la condition initiale au carré. Alors, cette énergie qu'on est en train de minimiser, vous voyez qu'elle tient compte de l'équation, donc c'est quelque chose de bien, mais l'équation, elle doit être vérifiée en beaucoup de points pour que ça puisse avoir un sens, cette chose-là. Et ces points-là, ils peuvent varier selon les itérations. Mais néanmoins, le problème en question, en particulier les problèmes qui nous intéressent, sont souvent des problèmes non linéaires. Et vous voyez qu'ici, on a des carrés qui arrivent naturellement. Ce problème-là va avoir plein de minimums locaux et plein éventuellement de solutions possibles. Et donc, ce qu'on peut faire en plus, c'est rajouter un quatrième paramètre pour maîtriser la taille des paramètres θ qui interviennent dans la définition du réseau de neurones qui est ici. Alors, l'équation que j'ai mise ici, soit on la vérifie de façon forte au sens colocation, soit on la vérifie de façon faible, c'est-à-dire que au lieu d'imposer que le résidu soit le plus petit possible quand je le considère comme intégré sur tous les points, ce que je peux faire aussi, c'est forme faible, demander que U soit défini pour que le résidu fois des fonctions psi soit égal à 0. Les fonctions psi étant soit les fonctions de type Galerkin, soit des fonctions de type Petrov-Galerkin, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, dans ce cas-là, on va sommer le résidu sur tous les cas qui sont proposés, à nouveau au carré, pour minimiser la forme faible du résidu. Ok, donc, aussi étonnant que ça puisse paraître, ces méthodes-là fonctionnent, donnent des résultats, en particulier les méthodes de gradient stochastique de type Adam fonctionnent et permettent d'obtenir des solutions à cela. Donc, je résume. La première chose, c'est de choisir la classe de l'approximation où θ appartient à un ensemble θ. Donc choisir la classe des fonctions qu'on va représenter par le réseau de neurones qui est là. La deuxième chose, c'est le choix de la loss function dans laquelle on impose la vérification de l'équation dans un certain sens. Alors, ensuite, il faut choisir la discrétisation de la loss function. Donc, soit en choisissant les fonctions test qui est là, soit en choisissant les points de colocation où on va vérifier l'équation. Et ensuite, choix de la méthode pour minimiser la loss function. Et une fois qu'on a ça, eh bien, on lance. Alors, dans ce papier de Deric et Mishra, donc, il y a une synthèse des analyses d'erreurs qui ont été proposées auparavant. Et donc, la première chose qui nous intéresse, c'est évidemment le U moins le U de θ qui sort de la minimisation et par le réseau de neurones de la loss function discrétisée. OK, donc ça, c'est E de θ. Et le mieux qu'on puisse obtenir, c'est le E de θ étoile de S, où θ étoile de S est obtenu dans l'ensemble qui est accepté par le réseau de neurones et qui n'est pas la solution donnée par le réseau de neurones, c'est celle qui permet, dans cette classe de fonctions générées par le réseau de neurones, d'avoir la meilleure approximation de U. Je ne dis pas que U de θ étoile, c'est ce qui est obtenu par le réseau de neurones. Dans la classe des fonctions décrites par le réseau de neurones, et donc les fonctions qui sont définies par le choix de la fonction d'activation et les matrices possibles, eh bien, on essaie d'avoir cette estimation qui est là. Alors ensuite, on a, c'est pas ce qu'on minimise, cette erreur-là, puisque U, il n'est pas connu, donc Uθ n'est pas l'objet qu'on va calculer en minimisant l'erreur entre U et Uθ. C'est un petit peu comme une estimation a priori dans une méthode d'éléments finis, où supposons qu'on connaît U, quelle est la meilleure approximation possible, et ensuite on sait que la méthode de Galerkin, quand on a les bonnes propriétés, ben, nous donne quelque chose qui est à une constante près, distant de la solution exacte, comme la meilleure approximation. Donc là, c'est l'erreur due à la meilleure approximation. Alors maintenant, ce qu'on a, c'est on a une erreur obtenue en minimisant exactement le résidu qui nous intéresse. Pour la classe des fonctions qui sont accessibles au travers du réseau de neurones. D'accord ? Et donc ceci, ça s'appelle l'erreur généralisée qui vient du fait que on regarde ce que l'on obtiendrait si on minimisait exactement la forme forte intégrée de cette façon-là, du résidu. D'accord ? Donc ça, c'est θ étoile de S. Donc là, on ne regarde pas ce que l'algorithme d'optimisation utilisé dans le réseau de neurones va être capable de faire. On minimise le résidu. D'accord ? Donc minimiser le résidu, c'est pas minimiser U moins U θ. Donc il y a une différence entre les deux. D'accord ? On minimise l'équation. C'est un petit peu ce qu'on obtient quand on résout Galerkin, où on minimise là aussi une certaine énergie sur une classe de fonctions. Et entre les deux, il y a des propriétés de stabilité qui permettent d'aller de l'un à l'autre. Et ce qu'on peut espérer, que E étoile soit majoré par une constante E étoile G à une certaine puissance alpha. Avec alpha égale 1, par exemple, pour dire que on a un résidu qui mesure à une constante près l'erreur H1 entre la solution exacte et la solution approchée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut espérer et sur lequel on va se baser. Alors, le point, c'est que on va pas minimiser exactement ce résidu qui est ici, puisque on va choisir des points de colocation ou choisir une forme faible. D'accord ? Et donc, la dernière chose, c'est le E réalisé de θ qui est obtenu en minimisant ce que j'ai à appliquer E pile, non c'est pas E pile, c'est le E pile discrétisé que je vais appeler choix d'un paramètre de discrétisation qui conduit à un J de U de θ. Donc c'est J de U de θ, celui qu'on minimise réellement au travers du réseau de neurones et qui va nous donner un E étoile réalisé comme étant le E de T au θ étoile qui nous intéresse de S. Ok, donc la seule chose qu'on pilote, c'est celle-là, puisqu'on n'a pas accès à cette chose-là et encore moins à celle-ci. Et donc, cette décomposition-là va nous permettre de comprendre les différentes erreurs que l'on fait. Alors, on a un lemme qui dit que si on a deux paramètres θ1 et θ2, alors EG de θ1 est plus petit que EG de θ2 plus 2 sup sur θ de ET moins EG de θ plus ET de θ1 moins ET de θ2. D'accord ? Bon, bah, ça c'est tout simple. Il suffit de dire que EG de θ1, c'est EG de θ2 plus EG de θ1 moins EG de θ2. Et on va introduire ici ET. Et donc, ceci, c'est EG de θ2 plus EG de θ1 moins ET de θ1 moins EG de θ2 moins ET de θ2 plus ET de θ1 moins ET de θ2. D'accord ? Et donc, ça donne ça en majorant cette partie-ci par deux fois le sup entre les erreurs du J et du pile qui sont là. Donc ceci nous permet de dire que le E étoile qu'on va obtenir, qui est l'erreur entre la solution exacte et la solution obtenue au travers du réseau de neurones, va être plus petit en utilisant cette estimation qu'on espère, C fois à la puissance alpha. Eh bien, l'erreur du θ chapeau qui serait celui qui permettrait dans la classe des fonctions de minimiser la partie exacte du résidu et donc qui est une erreur d'approximation, plus 2 fois le sup pour θ de ET moins EG qui s'appelle l'erreur de généralisation. Plus une dernière partie qui est l'erreur entre le ET étoile et le E pour θ chapeau, non, à la puissance alpha, et celle-ci qui est l'erreur due à l'optimisation. Ok, donc parce que l'erreur d'optimisation se fait sur le ET qui est là, d'accord, et donc la minimisation est poussée jusqu'à un certain point, mais on n'arrive pas forcément à avoir cette erreur d'optimisation. Donc, à rendre cette erreur d'optimisation, et celle-là, elle est liée à la méthode de gradient qui est utilisée pour minimiser la solution. Donc, on a donc 3 termes dans l'erreur, ce qui nous permet de piloter l'approximation dans ces erreurs, dans ces méthodes Physics Informed Neural Network, dans laquelle on comprend bien ce qui dépend donc du choix de la classe des fonctions d'approximation, des choix de la loss function et du choix de la discrétisation de la loss function. Le choix de la discrétisation de la loss function étant ici, le choix de la classe des fonctions est ici. Et qui permet aussi de comprendre un petit peu la complexité du problème que le réseau de neurones doit résoudre, puisque dans cette erreur d'approximation, où on essaie d'approcher une solution par un réseau de neurones, donc par une suite de termes où on avait vu qu'on avait la fonction d'activation qui agissait sur des W, Y plus B, qui sont composés, d'accord, puisque donc ensuite, à cette chose-là, on va associer un nouveau W, un nouveau B, et on va mettre une nouvelle fonction d'activation, et on va combiner ces choses-là. Donc, l'objet qu'on obtient à la fin, qui est une fonction de x, puisque y0 est égal à x, et qui représente l'expression de la solution soit dans une base d'éléments finis, soit dans une autre base, soit dans une base réduite, eh bien, on voit que la façon dont le x est défini ici représente vraiment un point important de ces méthodes PIN, ce qui conduit naturellement à retomber sur les méthodes de base réduite où l'objet, ça ne va pas être de mettre dans le vecteur y0 qui est ici x, t et mu, mais alpha et mu. Alpha, t et mu. D'accord ? Donc, l'idée dans le papier de Chen, Wang, Estaven et Zhang, c'est justement d'avoir une erreur d'approximation potentielle qui va être toute petite et donc dans lequel on saura bien maîtriser cette erreur d'approximation où on représente la fonction comme des fonctions en espace, en tout cas, qui sont capables de bien représenter la solution. Donc la méthode PIN de base réduite cherche donc à exprimer les paramètres et la fonction UN comme étant une somme de alpha i, zeta i allant de 1 jusqu'à grand N. Alors, contrairement à la première méthode, l'idée n'est pas l'idée de la méthode PIN n'est pas de reproduire l'application qui a mu associe alpha. L'idée du PIN, c'est par contre d'obtenir les alphas comme minimisant la loss function dans laquelle j'ai l'écriture de la méthode de base réduite, c'est-à-dire ce qu'on avait vu, le W fois le résidu appliqué à V trans V alpha au carré. OK ? Donc, vous vérifiez par là même qu'on a dans cette base-là automatiquement les conditions au bord qui sont satisfaites et la condition initiale aussi, si c'est un problème en temps. On peut tout à fait la voir en disant que les premiers paramètres sont ceux qui sont associés à la condition initiale. Donc, les conditions limites et initiales sont imposées de façon forte. Forte et exacte. D'accord ? Alors, par rapport à la méthode donc, on a vu, il y avait la méthode Projection Driven Neural Network, on a la méthode PIN, on a la méthode de base Galerkin, base réduite, dans laquelle il n'y a aucun réseau de neurones, et dans laquelle on a vu qu'il pouvait y avoir éventuellement le fait que celle-ci est intrusive, et puis il y a des problèmes éventuellement de stabilité, c'est du moins un des arguments qu'ils avancent dans ce papier. Alors, la méthode Project DN, c'était la méthode dont j'ai parlé ici. On connaît les coefficients dans une base réduite pour un certain nombre de paramètres et on apprend le réseau de neurones pour être capable de les retrouver. Et la méthode PIN, dans laquelle on minimise le résidu en base réduite. Voilà. Alors, celle-ci demande... requiert beaucoup de fonctions test. Et alors à ce niveau-là, ce qu'on avait vu, c'est qu'il nous faut des valeurs de mu i et d'être capable d'avoir un de mu i qui est la somme des alpha i de mu zeta i allant de 1 jusque n. Donc requiert de connaître beaucoup de ces applications qui à mu i associent ces coefficients-là. Alors ces coefficients-là, je vous rappelle, je l'avais déjà dit je crois, qu'il y a deux façons de les voir. Les alpha i qui sont ici, c'est soit les UH de mu de x et t fois les zeta i en produit scalaire L2, qui requiert le calcul de la solution fine qu'on avait ici. Mais ils peuvent être évidemment aussi obtenus par la résolution d'un pod Galerkin offline, qui va être moins coûteux que la résolution fine et qui va nous permettre d'avoir, a priori, si on fait ça offline et qu'on trouve que le pod Galerkin est trop coûteux pour être utilisé online, on peut l'utiliser néanmoins offline pour générer, pour... oui, alors là, j'aurais dû mettre un muka ici, pour mettre un muka ici, mettre un muka qui est là, voilà. Pour définir, pour plein de valeurs de muka, l'ensemble des paramètres alpha i de muka associés et qui nous permettent d'acquérir beaucoup plus de points d'échantillonnage pour exercer ce réseau. Néanmoins, ici, il faut beaucoup de fonctions test pour exercer ce réseau de neurones. Alors, la méthode PIN, par le fait qu'on a accès à l'équation, eh ben, elle permet de mieux coller à l'équation et que donc les résultats ici sont meilleurs. En tout cas, ils ont besoin de moins de fonctions d'entraînement. Alors néanmoins, ça reste quand même relativement instable. Et donc, une des possibilités, c'est de rajouter ici le facteur lambda 4 fois les θ qui sont estimés en une certaine norme euclidienne. Mais ce que dans ce papier avec Estaven, il propose, c'est de considérer une troisième méthode qui est la méthode physique renforcée neural network, donc la PRNN, qui consiste à prendre une loss function PRNN qui est une combinaison de la PIN et de la PDNN, dans laquelle on va améliorer cette méthode où on essaie de deviner les coefficients en les calant à des coefficients prédéterminés, mais qu'on n'a pas en si grand nombre que ça, on la complémente par la méthode PIN, en la rendant donc plus stable dans un certain sens, puisque elle évite les instabilités qui ont pu être notées au niveau de la pod Galerkin et qui a conduit à utiliser des méthodes de type Petrov-Galerkin. Donc ceci pour dire que le choix de la loss function dans cette méthode dans laquelle on essaie de définir un réseau de neurones optimal pour minimiser une certaine loss function dépend bien évidemment du choix de la loss function. Et le choix de cette loss function va être celui qui va nous permettre de faire le lien entre l'erreur optimale U moins U de θ avec l'erreur sur la partie de minimisation de la loss function qui tient compte de l'équation avec cette constante ici qui doit être déterminée et cette puissance alpha qui doit être déterminée ici. Alors l'analyse numérique de ces méthodes-là est en tout début, d'accord, comme vous pouvez le sentir ici. Cette erreur d'approximation, donc, elle peut être suppléée par le fait qu'on va définir des classes de fonctions qui s'écrivent dans des bases classiques d'approximation, et on va laisser le réseau de neurones générer la dépendance en temps et en mu qui nous intéresse. Mais ensuite, à l'intérieur de la loss function, on est obligé, sinon ça devient trop coûteux, de faire des approximations qui se mettent dans la partie généralisation. Et enfin, il y a la méthode d'optimisation qui doit nous conduire à trouver le paramètre optimal sur une surface à minimiser qui peut avoir plein de minimums relatifs. Voilà, donc dans ce cadre-là, pour le moment, il n'y a toujours pas d'estimation d'erreur, pas d'estimation d'erreur a priori qui est disponible, et encore moins a posteriori. Néanmoins, ce sont des méthodes sur lesquelles il convient de travailler, d'essayer de mieux comprendre. Et je pense que cette décomposition de l'erreur en différentes parties permet de comprendre ce qui se passe au niveau de ces approches dans laquelle on arrive à mettre l'équation, donc on la résout plus, quoi, hein. On la vérifie en des points qui sont bien choisis et qui rentrent dans un cadre stochastique. Et donc, les méthodes d'analyse des erreurs, à ce stade-là, commencent de la même façon, mais pour aborder ces deux parties-là, et même cette partie-là, quand la fonction est elle-même le résultat d'un réseau de neurones, c'est des choses sur lesquelles il faut travailler et que je ne vais pas aborder dans ce cours. Et d'ailleurs, c'est l'heure de conclure. Je vais donc vous remercier aussi tout le personnel du Collège de France qui a été d'un très important secours pour travailler sur préparer ces cours et prendre les contacts avec les conférenciers. Voilà, merci de votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.